Donc, les pères de la deuxième moitié du IVe siècle, et alors ce sont les trois Cappadociens que je vais d'abord voir, je pense que ce soir on se bornera à eux. Alors, vous voyez où est la Cappadoce, hein?
Oui.
Ça se trouve en Turquie.
À l'est de
chez
la
Monsieur
Turquie.
Erdogan.
Chez Monsieur Erdogan, oui, c'est ça. Oui. Alors, grand A, du coup, les Cappadociens. Et le premier qu'on va voir, c'est Saint Basile de Césarée, qu'on appelle aussi Saint Basile le Grand. La dernière fois, je vous avais lu l'histoire de son amitié avec Saint Grégoire de Nazianze. Alors, Basile de Césarée est né, pense-t-on, en 330. Alors, il est issu d'une famille de la haute aristocratie qui était autrefois souveraine. Donc, c'était un prince souverain. Et lorsque la Cappadoce a été entièrement, intégrée à l'Empire romain, c'est une famille qui est devenue sénatoriale. Voilà. Une famille, je vous l'avais déjà dit, je crois, qui était chrétienne depuis la fin du IIIe siècle et qui notamment avait connu les persécutions, avant même les persécutions de Dioclétien. Les biens avaient été confisqués, ils avaient été persécutés, et c'est lui et ses neuf frères et sœurs ont été élevés dans le culte des parents et grands-parents qui avaient été courageux pendant les persécutions. Donc dans un climat d'héroïsme qui justement, comme je vous le disais, après la persécution de Dioclétien et puis le tournant constantinien, quelques 10 ans après, il y a eu une vague de conversion plutôt intéressée, puisque les gens avaient compris que être chrétien, c'était être dans le vent. Et alors, du coup, ça. Évidemment, ça a un peu énervé les anciens chrétiens qui avaient subi, eux, les persécutions, et dans un esprit qui n'était pas un esprit de
mondanité.
Oui, de mondanité, et puis d'arrivisme aussi, hein, d'arrivisme. Alors, parmi ces trois frères et ces six sœurs, donc il y a Saint Grégoire de Nice, qu'on verra un peu plus tard, Saint Pierre de Sébaste, qui était aussi évêque. Enfin, donc il y a trois évêques dans la fratrie, et Sainte Macrine la Jeune, qui était une abbesse. Voilà. Alors, son plus jeune frère, je vous l'avais dit, était mort prématurément comme ermite. Alors, Saint Basile, a fait ses études à Césarée de Cappadoce, c'était de là d'où il était originaire. Donc, c'est pas le même Césarée que Césarée maritime qu'on trouve en Terre Sainte, puis à Constantinople, et enfin, alors à Constantinople, il a même fait ses études avec Julien l'Apostat, hein, qui est de son temps, et puis à Athènes, où il va se lier en particulier avec Grégoire de Nazianze, et je vous avais lu le texte de Grégoire de Nazianze au moment enfin le panégyrique de Basile de Césarée. Alors, sous l'influence de sa sœur, il reçoit le baptême. Ah, vous voyez, on ne baptise pas vraiment les enfants. Hein. Les gens attendent d'avoir 20 ans, 30 ans pour être baptisés. Donc, il reçoit le baptême et s'oriente vers la vie monastique. Enfin, finalement, ils font comme Pavel. Il s'oriente vers la vie monastique en ayant vendu ses biens pour constituer un fonds au service des pauvres. Hein, c'est vraiment l'évangile de Saint Matthieu, qui avait marqué Saint Athanase aussi au moment de sa conversion. Et donc, il se retire... Ah, voilà. Ah, mais il n'est pas en grève. Alors donc, il demande le baptême. Et alors, il crée un fonds pour aider les pauvres. Et Donc sur ces terres, ils fondent un monastère et ils s'entraînent à la vie monastique. Et Grégoire de Nazianz racontera avec beaucoup d'humour dans des lettres, les essais de travaux manuels à la campagne de ces deux jeunes intellectuels. Voilà. Et qui, finalement, ces deux jeunes nobles intellectuels étaient probablement pas plus doués que des gens de notre époque. Alors, oui, que le vicaire, par exemple.
Je répète ce qui a été dit à l'homélie.
Oui, je l'ai dit.
Vous l'avez
hein.
dit lundi.
Je l'ai dit lundi à l'homélie. À propos de quoi, je ne sais plus, mais...
De Saint-Joseph.
Ah, de Saint-Joseph, voilà, c'est ça. Oui. Alors, Basile va rédiger des règles monastiques. Heureusement, pour rédiger des règles, il n'y a pas besoin d'être très manuel, il suffit de savoir tenir une plume. Un kalam, comme on dit. Un kalam, vous savez ce que c'est, hein?
C'est un stylo.
Un kalam. C'est un bout de... C'est un roseau coupé, oui.
Les Égyptiens,
les Grecs. Oui, c'est ça. Alors, il rédigera deux règles pour les communautés qui vont subir son attraction, parce qu'il y avait des tas de monastères qui se créaient, mais qui étaient parfois, alors là, pour le coup, des gens assez manuels. Et qui avaient besoin d'une règle qui organise leur vie. Alors, pas seulement une règle très spirituelle, mais au moins une règle administrative qui organise leur vie. Et il va travailler avec Grégoire de Nazianz à une anthologie des textes d'Origène qu'on appelle la Philokalie. Philokalie, c'est l'amour du beau, l'amitié du beau.
Vous aviez écrit la dernière fois, c'était joli.
Ah oui. Oui, ben, l'ennui, c'est que j'ai oublié mon feutre. Alors, et en 364, Basile va quitter sa retraite, sa thébaïde, si on peut dire, même si on est plutôt en Cappadoce. Oui, il va quitter sa retraite pour être ordonné prêtre à Césarée de Cappadoce. Et il devient le principal collaborateur de l'évêque, qui est nicéen, donc qui est dans la ligne du concile de Nicée. Et c'est sur l'insistance de ses amis qu'il se lance dans qu'il quitte sa solitude pour se lancer dans le combat doctrinal. Donc c'est parce que des gens s'étaient dit « mais c'est trop bête qu'il reste dans son monastère, il faut qu'il en sorte et qu'il entre dans l'arène intellectuelle » pour s'opposer aux Ariens. Alors Basile, qui est peut-être pas très manuel, est quand même très réaliste, et il va organiser aux portes de la ville épiscopale une véritable cité pour les nécessiteux, pour les pauvres, les malades. Il va créer des dispensaires, des hospices, des hôpitaux, qu'on appellera la Basiliade. Hein, parce qu'en fait, c'est lui qui va tout financer. Et du coup, en 370, il va succéder à l'évêque local et deviendra même métropolitain, donc responsable de toute la province ecclésiastique de Cappadoce, du pont en fait. Hein, cette région-là, c'est le pont. Et il va résister à la politique de l'empereur Valens, qui était homéen. Alors les homéens, vous vous souvenez que ce sont ceux qui sont ceux de l'homo iusios, hein, donc c'est-à-dire qui coupent la poire en deux. Le Christ n'est pas totalement Dieu, mais il n'est pas totalement pas Dieu non plus. Donc
c'est la même nature, c'est ça?
Non. Oui, c'est semblable. Voilà. Donc il laisse en fait un peu la langue au chat, si on peut dire. Hein. Et alors, résultat, Basile, lui, il va pas rentrer dans ce compromis. Et sa manière de combattre, c'est de multiplier sur les sièges épiscopaux, d'abord de multiplier les sièges épiscopaux dans sa métropole, Comme ça, il y a plus d'évêques qui pensent comme lui. Donc, ça permet d'avoir la majorité dans les synodes provinciaux. Alors, il va, par exemple, il va obliger Saint Grégoire de Nice, enfin, son frère Grégoire, à devenir évêque à Nice, mais Nice en Cappadoce. Alors, il va y aller, le Grégoire, en traînant les pieds. Son autre frère, Pierre, il va l'envoyer à Sébaste. Et puis, un de ses cousins, qui s'appelle Saint Amphiloque, il l'envoie comme évêque à Iconium. Vous savez, Iconium, là où était passé Paul. Et son ami Grégoire, il l'envoie à Nazianze. Donc, vous voyez, il peuple les sièges épiscopaux de ses amis pour que la doctrine du concile de Nicée soit illustrée par des évêques qui prennent part à des votes et qui ainsi peuvent faire face à la déferlante impériale, si on peut dire, parce qu'un certain nombre d'évêques étaient un peu impressionnés par l'empereur et avaient tendance à voter comme l'empereur souhaitait. Alors, à la mort d'Athanase, en 373, alors Athanasios, c'est quand même mort, hein, même si ça veut dire que celui qui est immortel, eh bien, Basile va devenir la figure de proue de l'orthodoxie nicéenne en Orient. Et comme Rome, comme l'évêque de Rome, est, comme je vous dis, ce n'est pas un évêché qui a un grand, grand prestige, intellectuel, parce que Rome c'est finalement une petite bourgade hein, par rapport à Constantinople maintenant, mais néanmoins le siège de Rome est toujours resté orthodoxe et finalement Basile va s'appuyer sur l'orthodoxie romaine pour resserrer les liens avec Rome et il va se dépenser sans fin pour la divinité du Christ et du Saint-Esprit. Il mourra d'épuisement en 379, 2 ans avant le concile qui va canoniser sa pensée, qu'il ne verra pas, mais qui sera l'aboutissement de tout son travail. Le premier concile de Constantinople, en 381. En 379, il meurt, et en 81, il y a le concile. Oui, 1, parce qu'il y en aura 3. Alors, Basile était intransigeant en matière de doctrine, mais suffisamment diplomate pour ne pas gâcher ses atouts, un peu à la différence de Saint Jean Chrysostome, qui était assez aussi intransigeant en matière de doctrine morale, et qui, lui, aura tendance à foncer dans les obstacles, au point que c'est lui qui sera viré, quoi. Et puis, il finira en exil, un exil où on aura hâté, d'ailleurs, sa fin. Alors, évidemment, son prestige, sa responsabilité intellectuelle, son style de vie austère aussi, vont lui valoir des jalousies épiscopales. Son frère, d'ailleurs, Grégoire, dans la préface de la vie de Moïse que j'enseigne à des séminaristes, fera d'ailleurs parfois allusion aux jalousies épiscopales. Ça existait déjà, figurez-vous. Alors, son œuvre est plutôt oratoire, parce qu'il n'a pas vraiment eu le temps de... D'abord, il était moine, donc il écrit des règles, etc. Et puis ensuite, il s'est retrouvé évêque, obligé de prendre parti dans des conflits doctrinaux. Donc, il a surtout une œuvre plutôt oratoire, où il explique les Écritures dans des sermons qui ont une portée dogmatique. Une portée doctrinale. À chaque fois, il essaie de défendre la divinité du Christ, vous voyez, ou du Saint-Esprit. Et puis aussi, comme on dit, parénétique, c'est-à-dire pour encourager les gens à être fidèles dans leur vie chrétienne, c'est-à-dire en fait, disons, morale, quoi, la finalité morale. Alors, il prêchera sur le jeûne, sur l'aumône, sur la sobriété, sur l'humilité, enfin, vous voyez, toutes les grandes vertus chrétiennes. Donc, il y a aussi ces deux règles monastiques, une qui est longue et une qui est plus courte, Et puis la liturgie qui porte son nom, la liturgie de Saint Basile, qui sera mise au point au VIe siècle, mais qui est issue de ses réformes liturgiques, voilà, de ce qu'il avait mis en œuvre dans sa métropole du Pont. N'oubliant pas sa jeunesse, il écrira aussi une exhortation aux jeunes gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques. Oui, et donc la culture profane reste quand même une tentation pour ces gens lettrés. Son frère expliquera comment il faut l'utiliser pour... comment elle peut servir de moyen pour illustrer la foi chrétienne. Alors dans ses œuvres doctrinales, aussi des œuvres doctrinales, il y a un ouvrage contre Eunome. Vous vous souvenez que j'avais parlé de lui l'autre fois, Contra Eunomium. Alors ce Eunome, en grec ça voudrait dire la belle loi, la bonne loi. Donc c'est un texte qui a été écrit en 363-364. Et qui compte 5 livres, dont 3 qui sont vraiment de Basile, où il répond à une apologie. Alors là, Arienne, Eunome, c'était pas un modéré, c'était un Arien pur et dur, oui, c'est-à-dire pour qui le Christ n'était pas Dieu. Et Basile répond. Et il va consacrer, donc les 3 livres authentiques de lui sont consacrés chacun à une personne de la Trinité. Alors tout d'abord, il y avait, vous souvenez, ce prédicat de Dieu, on disait qu'il était agenetos, donc il n'était pas créé. Hein. Basile dit que ça se dit... agenetos, avec deux N, qui veut dire pas engendré, inengendré. Oui. Et alors il dit que l'inengendré ne se dit pas de la substance divine, mais de la personne du Père, et que ça n'empêche pas les autres personnes d'être engendrées. Donc l'inengendré signifie plutôt, s'applique au Père, s'applique pas à Dieu dans sa totalité. Donc c'est une réponse à ceux qui disaient... que le Fils ne peut pas être Dieu puisqu'il est engendré. C'est un peu d'ailleurs ce que les musulmans pensent. Hein. Pour eux, le fait d'être fils, d'ailleurs d'être père aussi, c'est une raison pour ne pas être Dieu. Hein. Alors Basile répond à cette objection en disant que le fait d'être inengendré ne s'applique qu'au Père. Le fait d'être engendré s'applique au Fils. Mais que ça ne concerne pas la substance divine, mais les personnes. Donc il fait une réflexion, une distinction entre personne et substance. Dans son second livre, il va parler en particulier du Fils, et il va pousser à l'absurde les affirmations contradictoires de Eunome sur la nature créée du Fils, et sa génération avant le temps. Les Ariens disaient, il y eut un temps où il ne fut pas, où le Christ, où le Fils n'était pas, en disant, puisqu'il était engendré, avant d'être engendré, il n'existait pas, parce que il réfléchit, comme pour nous. Enfin, il y a un moment, nous, on n'était pas, à moins de croire à la préexistence des âmes comme Origène, mais alors là, Basile va dire oui, mais en Dieu, on peut très bien être engendré éternellement. Autrement dit, il n'y a pas de temps où le Fils n'était pas. Le Fils est de toute éternité, mais il est en provenant du Père. Donc ça, c'est vraiment une réflexion, une réponse très juste que la théologie va exploiter ensuite. Et puis, dans le troisième livre, il va dire que les différences entre les personnes divines ne relèvent pas de la substance. Donc le Père serait Dieu, et puis le Fils, du coup, n'étant pas le Père, ne serait pas Dieu. Mais elles ressortent de l'ordre en Dieu. Donc, elles ne sont pas contradictoires avec le fait que les personnes soient divines. Vous voyez, qu'il y a un ordre en Dieu signifie pas pour autant que ceux qui sont pas en premier, celui qui n'est pas en premier, ne sont pas Dieu.
Quand vous dites ordre, vous distinguez ordre et hiérarchie, organisation et hiérarchie.
Oui, alors ordre, en fait, c'est ce que. Ça va être le terme de procession, qu'on va appeler le fait de procéder de. Voilà. Donc le Fils procède du Père et l'Esprit procède. Alors, Fils ou du Père et du Fils, bon, enfin bref, en tout cas, il y a un ordre dans la Trinité. Mais le fait qu'il y ait un ordre signifie pas pour autant que les personnes soient pas de même dignité et en particulier de même divinité. Pourquoi ? Certainement parce que Onum devait avoir présent à l'esprit les idées émanatistes courantes dans le platonisme qui consistaient à dire. Il y a une première réalité qui est vraiment divine, puis après émane d'elle quelque chose qui est moins bien, et puis ainsi de suite jusqu'à la matière qui est informe, en fait. Et donc à chaque fois, on perd en dignité, en substance, etc. À chaque fois, ce sont des sous-produits, en quelque sorte. Hein. Tandis que là, Basile va bien souligner que tout ça se produit à l'intérieur de la divinité. Et donc, il y a égalité d'honneur et de dignité entre les personnes divines, mais il y a néanmoins un ordre. Le Père est, entre guillemets, avant le Fils, même si c'est éternellement. Vous voyez, c'est ça qui nous est difficile à percevoir, que tout ça se réalise dans l'éternité. L'éternité, c'est un unique moment.